Bonjour à tous ceux qui sont ici pour cette c'est la troisième séance du séminaire de l'atelier numérique des SHS, de la Maison des sciences de l'homme, qui est une Maison des sciences de l'homme Orléans-Tours, ce qui explique pourquoi nous avons la visioconférence avec Orléans. Toutefois, les doctorants d'Orléans, dans leur école doctorale, on ne leur demande pas d'organiser des séminaires, ou très peu. On espère quand même attirer aussi ces étudiants-là, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu dommage, étant donné qu'on a la technique pour faire ces séances, que tous les doctorants des deux universités n'en profitent pas. Alors, les séances sont enregistrées, donc vous pouvez récupérer si vous avez été malade, mais pour ceux qui sont dans le cadre de l'école doctorale, vous savez qu'il faut valider, qu'il faut faire signer, etc. Alors c'est la première séance où nous associons le séminaire de la MSH et l'école doctorale. C'est une première, mais c'est vrai qu'on a commencé à organiser ces séminaires l'année dernière. Et on a trouvé que ça pouvait être une expérience intéressante pour vous et pour nous de faire participer et de faire connaître les différentes activités qui sont liées au numérique dans des disciplines extrêmement diverses. Alors elles ne vont pas toujours correspondre à ce que vous faites, mais vous verrez, la plupart du temps, et je pense même toujours, il y aura des applications possibles, ça peut donner des idées, y compris pour ceux qui semblent très éloignés, dans les disciplines qui semblent très éloignés du thème du jour. Hein, pour la géolocalisation en particulier, on a l'impression que ça concerne les archéologues et géographes. Moi je suis littéraire, et je peux dire que nous commençons à travailler avec la géolocalisation, notamment pour les textes littéraires et pour les romans, hein, c'est aussi une application qui se développe de plus en plus. Donc vous avez les spécialistes ici. Alors l'organisation du séminaire repose sur les épaules de Laurence Rajot, qui est ici. Voilà. Dites pour, si vous avez des problèmes pour l'organisation, vous vous adressez. Voilà, c'est ça. Et puis vous avez vu donc Adine, qui est chargée de communication, qui a fait les jolis programmes qui sont ici. Et donc nous sommes maintenant, enfin la MSH est étroitement associée à l'association des doctorants du côté Tourangeau, mais aussi du côté Orléanais. Et donc là aussi, vous pouvez faire passer des informations, ou des informations peuvent passer par l'association l'association des doctorants. Voilà, et ce sont des séances où on écoute, mais ce sont aussi des séances où on pose des questions, sauf...
Ah bah oui, j'espère bien.
Laurent, si vous voulez dire deux, trois mots, voilà.
Vous avez tout
identifié. Donc nous aujourd'hui, géolocalisation, et nous allons entendre successivement ou de façon croisée, je ne sais pas.
Successivement.
Donc Xavier Rodier, qui est ingénieur de recherche au laboratoire CITER, laboratoire d'archéologie de CITER, et ensuite Dominique Andrieux, géographe, qui est à la MSH, géographe cartographe, le trait du nord.
Merci. Alors effectivement, je suis archéologue. Je vais commencer par là, puisque la question de la transversalité a été posée par Marie-Luce. Et il me semble que...
Pardon.
Marie-Luce de Monet, directrice de la MSH Val-de-Loire. Oui, la question de la transversalité me semble importante, surtout sur ce thème-là. On nous a demandé, la commande ici est de parler bien de géolocalisation et pas d'archéologie. Alors je vais forcément prendre des exemples en archéologie, pas uniquement, je vais essayer de ne pas parler que d'archéologie. Et vraiment, on en a pas mal discuté avec Dominique en préparant ce séminaire, de partir de ce titre qui est la géolocalisation. Alors en fait... c'est la première fois que je travaille depuis longtemps sur ces questions de spatialisation de l'information en sciences humaines et sociales, en archéologie en particulier, mais plus largement en sciences historiques et en collaborant beaucoup avec des géographes. Et c'est la première fois que je parle sous ce titre de géolocalisation. Donc au début, ça fait partie de la discussion. Je ne savais pas très bien comment l'aborder, parce que finalement, depuis longtemps, on va dire qu'on en fait sans le savoir, c'est ça, hein, comme, ouais, comme M. Jourdain. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur la spatialisation depuis longtemps, et puis ce terme est apparu beaucoup plus récemment. Et je vais y revenir, beaucoup plus récemment, lié à de nouveaux outils et à toutes sortes de possibilités de géolocalisation sous forme de pointeurs, exactement comme l'image qu'a préparée Adeline et qui est à l'écran en ce moment présente. Alors, pour commencer justement, qu'est-ce que c'est que la géolocalisation ? Moi, j'ai tendance à dire, quand on me dit géolocalisation, ce que c'est un pléonasme. Parce que localisation, oui, mais à partir du moment où on dit géo, c'est géographie. À la limite de géolocalisation avec un tiret, puis maintenant, il n'y est plus jamais. C'est toujours en un seul mot. Il n'y a pas définition de ce terme, en dehors de quelques définitions techniques qui commencent à apparaître dans des domaines spécifiques liés... en particulier à la téléphonie mobile ou à des outils de navigation embarqués dans toute forme de véhicule. On a parlé pendant un moment de géopositionnement. Je vous ai mis un certain nombre de termes ici. Au bout du compte, cette géolocalisation, c'est vraiment un terme qui est, à mon avis, créé et qui... Il ne s'agit pas de ne pas l'employer, puisque tout le monde l'utilise, et donc je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais c'est un terme qui est complètement associé aux nouvelles technologies et aux nouvelles utilisations qu'on a, en particulier justement de la téléphonie mobile, des puces qui permettent d'embarquer des fonctions GPS dans toutes sortes d'appareils, et ce qui fait qu'on peut être positionner n'importe quel appareil électronique à la surface du globe, partout et tout le temps. Cette fonction qui est nouvelle est en fait appuyée sur tout un tas de méthodes et de techniques et de connaissances antérieures. Et donc là, on va commencer à rentrer dans des termes plus techniques, comme le géoréférencement ou le géocodage, qui sont des termes que nous, on manipule beaucoup plus et qu'on utilise beaucoup plus depuis plus longtemps, qui correspondent à la manière dont on va positionner une information ou un objet ou une personne à la surface du globe. Alors, le géoréférencement, c'est ce positionnement. Le géocodage, c'est la méthode qui va être utilisée pour référencer une base de données à des adresses, par exemple, là encore, à la surface de la Terre. Mais au bout du compte, on pourrait avoir, et puis peut-être que d'autres termes verront le jour, on pourrait avoir d'autres termes, mais finalement, le fond de tout ça, c'est de la cartographie, et c'est de la cartographie et des sciences géographiques. Donc, je ne défends pas ma boutique, je suis archéologue, je vous l'ai dit, mais c'est bien de la cartographie et de la géographie qu'il y a à la base de ça, c'est la technique qui fait qu'on est... Enfin, les nouvelles technologies, les nouveaux outils qui font qu'on utilise ce thème parce que c'est accessible partout et tout le temps. Vous ne trouverez quasiment plus un site internet où on n'a pas, dans les sites courants, un positionnement. Parfois même, dès que vous arrivez sur un site, on vous positionne directement là où vous êtes par votre adresse IP, par les coordonnées que vous avez pu rentrer avant, etc. Mais de toute façon, on vous localise en permanence. Alors, on a longtemps dit que les banquiers savaient toujours où on était avec les moyens de paiement électroniques. Maintenant, on est beaucoup plus précis que ça. Et c'est vos opérateurs de téléphonie mobile qui savent en permanence vous localiser. Ça a des impacts parfois pour la police ou la justice sur des affaires particulières. Ça crée des masses de données qui sont enregistrées sur les serveurs de ces opérateurs qui rentrent dans ce qu'on appelle maintenant les big data. Et ces masses de données de localisation, tous les opérateurs de téléphonie et puis d'autres en recherche se posent la question maintenant de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment les exploiter. Donc ça rentre dans ce domaine actuel de la recherche sur les données numériques qu'on appelle les big data. Et il y a un certain nombre de recherches en cours, de thèses en cours, qui font appel à des données d'opérateurs, alors évidemment sous réserve de confidentialité, et on ne va pas jusqu'à la personne, mais qui exploitent ces données de téléphonie mobile pour voir comment, à travers des mouvements importants en nombre de personnes, on arrive à sortir une information spatiale et quel type de sens ça peut prendre. Le dernier exemple que j'ai vu porte sur l'usage enfin les données issues de ces téléphones portables lors de la grande braderie de Lille, où il y a énormément de monde. C'est une étude autour d'un événement, d'un temps court. Et pendant cet événement, ils ont enregistré, alors c'est auprès d'un opérateur, toutes les données, enfin ils ont récupéré toutes les données de localisation, et ils essaient de voir quels sont les mouvements au sein de cet événement qui regroupe des dizaines de milliers de personnes. Donc cartographie et géographie, alors la géolocalisation, elle est partout, elle est tout le temps. Mais au bout du compte, au départ, c'est quand même ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a très longtemps fait avec des cartes papier et de poser un pointeur dessus, ce qui a vu comme ça une certaine forme d'élégance. On manipule des cartes papier, on se positionne dessus. Et puis c'est devenu ça, c'est-à-dire c'est un peu moins élégant, c'est embarqué partout. On a un fond de carte. Un positionnement qui peut dire où on est, où on veut aller, on peut calculer des itinéraires, et c'est dynamique et on échange directement avec. Mais ce positionnement, quand on était sur la carte papier, c'était souvent pour dire ça c'est l'endroit où je suis, c'est l'endroit où je veux aller, on étudie, c'est un peu ce qu'on peut faire avec la carte telle qu'elle est en dessous. Maintenant, c'était déjà utilisé par ce symbole que vous avez tous vu, c'est celui qu'on voyait jamais au bout du compte, parce que c'est ce qui était toujours usé sur les cartes, vous savez, dans les abribus, le plan de ville où vous cherchez désespérément à vous repérer, et vous êtes ici et a complètement disparu, c'est... puisque tout le monde a mis son doigt dessus et avant vous. Maintenant, le vous êtes ici, il prend un autre sens, parce que on en est arrivé là, et c'est vous êtes ici, on sait où vous êtes. Avant, c'était pour vous rendre service et pour vous dire, vous êtes là et vous allez pouvoir vous repérer dans l'espace et savoir vous orienter. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Vous êtes ici, c'est presque comme le doigt « I want you » des affiches célèbres. Mais maintenant, c'est on sait où vous êtes et on peut vous emmener et là où vous avez besoin d'aller. Mais on peut aussi... et c'est bien là qu'il y a derrière des enjeux commerciaux et économiques importants, on peut aussi vous proposer toutes sortes, sous forme de publicité ou de services, de toutes sortes de choses, toutes sortes d'informations à partir de l'endroit où vous êtes. Puisqu'on sait où vous êtes, et même au-delà, on connaît une partie de vos centres d'intérêt, on peut vous offrir un certain nombre de services liés à ça. Donc la géolocalisation, dans ce sens-là, prend une ampleur complètement différente de ce que l'on faisait en pointant une épingle sur une carte. Peut-être que ça deviendra ça, c'est-à-dire que les pointeurs, c'est le virtuel qui reviendra dans la réalité et que les pointeurs seront créés directement dans les rues jusqu'à ce qu'on en ait d'attachés après nous physiquement et qu'on se promène avec notre bulle au-dessus de la tête. Sans en arriver là, je reviendrai tout à l'heure sur justement cette fonction à partir d'un certain nombre de cibles de cartographie en ligne. Donc voilà, la géolocalisation, ça reste, quels que soient les outils que l'on met derrière, ça reste une question qui est liée au positionnement dans l'espace. Alors le positionnement dans l'espace, comment ça marche? Pour cela, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, ni vous asséner d'équations ou de manières de faire, de méthodes. Mais malgré tout, qu'est-ce que ça veut dire que se géolocaliser, se positionner dans l'espace? Eh bien, le premier moyen de se positionner, ça veut dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, se repérer à la surface du globe terrestre. Se repérer à la surface du globe terrestre, ça passe par une série de méthodes qui consistent à transformer la surface topographique de la Terre en une forme approximative que l'on va appeler un géoïde, puis à transformer ce géoïde en une forme mathématique qu'on va appeler une ellipsoïde, puis à calculer les coordonnées de l'endroit où on est sur cette ellipsoïde, c'est ce que vous voyez dans la figure de gauche, pour obtenir ce que l'on appelle des coordonnées géographiques. Ces coordonnées géographiques sont la latitude et la longitude. Cette latitude et cette longitude, c'est ce que on va mesurer sur les parallèles et les méridiens que l'on utilise pour quadriller le globe. Elles nous positionnent sur une sphère, enfin sur une ellipsoïde exactement, plus précisément. Quand on va se géolocaliser, qu'on le fasse sur un plan papier ou même sur une carte en deux dimensions dans nos ordinateurs, il va falloir transformer cette surface sphérique pour la ramener sur un plan. Et à partir de là, il va falloir utiliser un système de projection. Je vous ai mis une figure rapidement ici pour vous montrer que le choix de ce système de projection va engendrer différentes déformations. Mais nécessairement, sans entrer dans les détails, vous voyez bien ici que selon la méthode que l'on va choisir, on va obtenir on aura toujours une déformation. Il faut nécessairement déformer la sphère pour la représenter en plan, et que selon la déformation que l'on va choisir, on obtiendra un résultat différent. Ces systèmes de projection sont ensuite transformés en systèmes de coordonnées locaux pour pouvoir se repérer avec plus de précision dans des espaces donnés. Là encore, je vous passe les calculs et la manière d'organiser ces systèmes de coordonnées. Mais ce sont les types de coordonnées que vous retrouverez sur des cartes papier, etc. Alors les coordonnées géographiques, longitude, latitude, dans le langage courant, pour les mêmes raisons qu'on parle maintenant de géolocalisation en permanence, c'est ce que vous trouverez partout sous le nom de coordonnées GPS. Alors, pourquoi GPS ? Tout simplement parce que ce qu'enregistre en premier le GPS, c'est la longitude et la latitude. Donc on parle de coordonnées GPS, en fait, ce sont des coordonnées géographiques de latitude et de longitude. Voilà juste deux projections différentes d'une map-monde pour vous montrer que, selon les choix que l'on fait, la déformation est distincte. Certaines conservent les angles, d'autres conserveront les surfaces, et vous voyez très vite, entre ces deux représentations, l'exemple le plus flagrant, c'est évidemment le Groenland, où dans la carte du haut, il est largement plus grand. Ça va, Dominique, il n'y a pas que des géographes, mais le Groenland, tout le monde voit à peu près où c'est quand même. Merci. Dans la carte du haut, il est largement plus grand que l'Amérique du Sud et même que l'Afrique, ce qui évidemment n'est pas la réalité, quoi. Et vous le voyez dans la carte du dessous, qui présente d'autres défauts, puisqu'on ne peut pas y mesurer d'angle correctement. Je vous parlais de GPS. Eh bien, ce positionnement, je vous ai dit que techniquement, on embarquait des puces GPS partout, dans tous les objets. Il y en a dans nos téléphones, il y en a dans nos voitures, il y en a dans tous les objets que l'on peut... quasiment tous les objets électroniques que l'on manipule. Le GPS, c'est un système qui fonctionne avec une constellation de satellites qui tourne en permanence autour de la Terre. Alors, il en faut 24 pour que le système fonctionne complètement. Il y en a en fait une trentaine qui tourne en permanence pour combler les défauts et les pannes. Là encore, sans rentrer dans le détail, il faut arriver, pour avoir un positionnement précis, à avoir au moins 4 satellites pour avoir une position, pour pouvoir positionner un objet. C'est-à-dire qu'il faut que la puce, là où elle est, le récepteur, puisse capter le signal de 4 satellites en même temps. À partir de là, on fait une opération qui s'appelle de la trilatération. Quand on est en plan, on parle de 3 positionnements et on parle de triangulation. Dans l'espace là, on va parler de trilatération. Et il faut les algorithmes qui sont développés dans tous ces outils consiste à résoudre des équations à 4 inconnues pour permettre les 4 inconnues sont les 3 coordonnées et le temps d'émission du signal qui permettent de se positionner. Ces satellites, on va enregistrer leur position, leur signal à partir de notre récepteur, et puis on va là, très souvent pour améliorer le signal, c'est ce qui est dans l'image de droite, comparer ce signal à une station de référence qui permet de le calibrer et de l'affiner et de faire ce que l'on appelle du calcul différentiel, du relevé différentiel. Donc là encore, je ne rentre pas dans le détail, simplement, cette géolocalisation qui est partout, vous voyez que ça fait appel quand même à un certain nombre de techniques et de assez complexes dans leur mise en œuvre et leur calcul, et aussi de moyens qui ne sont pas complètement négligeables, parce que envoyer une trentaine de satellites dans l'espace, ça demande un peu d'organisation. Alors évidemment, au départ, c'est un système militaire qui est maintenant complètement américain, complètement ouvert au public maintenant, concurrencé, enfin plus ou moins complété, on va dire plutôt, par un système russe et peut-être un jour par un système européen. Je ne sais plus où on en est, mais il y a...
Galilée, oui.
Qui s'appelle Galilée, oui. Le système russe, c'est GLONASS. Le système européen, c'est Galilée. Et on en est à quoi? 2, 3 satellites? 4 peut-être, maximum. Enfin, donc ça progresse, mais lentement. Et on n'est pas, c'est pas encore tout à fait au point. Simplement, ça, c'est un aspect un petit peu technique, mais la précision de ces GPS, plus on va avoir de systèmes complémentaires, plus on pourra affiner la précision du positionnement, puisque les outils GPS sont maintenant capables d'utiliser aussi bien le système GPS que le système GLONASS. Alors, à partir de là, et là j'en reviens à ce qui est plus presque mon cœur de métier, qui est plus proche de la géomatique, même si je travaille en archéologie, mais en tout cas plus proche de l'information spatiale, toute l'information que l'on va enregistrer d'une manière ou d'une autre, l'information spatiale que l'on va enregistrer, on va avoir deux manières de la traduire en données numériques et en informatique. Ça, c'est important parce que c'est des données que vous allez manipuler tout le temps, en permanence, sans savoir vraiment de quoi il s'agit, donc dès que vous êtes sur des sites ou autres. Et c'est la structure même de ces données est faite de deux manières et ne permet pas, évidemment, de faire, chacune ne permettant pas de faire exactement la même chose. Dans le premier cas, on va avoir une information dite vectorielle, c'est ce qui est à gauche. On va enregistrer, là encore pour faire vite, des primitives géométriques, des points, des lignes et des surfaces que l'on va assembler pour créer des objets géographiques et on va pouvoir attacher de l'information à ces objets géographiques. Dans le deuxième cas, on va avoir une information dite dans le jargon raster, qui est en fait une information matricielle, dans laquelle on va enregistrer une image continue. Donc c'est ce que vous faites quand vous prenez une photographie numérique, quel que soit l'outil que vous utilisez. Et cette matrice est composée de pixels, donc de ce qui est la plus petite unité de la matrice. Donc évidemment, plus il y en a, plus l'image va être précise. Et l'information est attachée non pas à l'objet géographique, mais au pixel lui-même. Donc vous voyez bien que dans un cas, on traite une image, dans l'autre, on traite d'objets, et on va manipuler les deux. Et surtout, on va croiser ces deux types d'informations dans les mêmes outils. Je ne vais pas plus loin dans cet aspect technique, mais c'était simplement pour qu'on sache un peu de quoi on parle en introduction. Maintenant, les outils liés à la manipulation de la géolocalisation et en particulier à l'information spatiale numérique, en particulier liée à l'Internet. Alors, il y a une série d'outils de cartographie en ligne. Il y a ce qu'on appelle des globes de géovisualisation. Je vais vous montrer après, mais vous connaissez tous pour avoir utilisé à un moment ou à un autre, je pense, ces outils-là. Je dirais un mot d'outils collaboratifs qui commencent à apparaître. Et puis, je reviendrai en toute fin d'exposé, après être passé à autre chose, aux outils de web mapping qui peuvent... donc, web mapping, c'est de la cartographie sur le web. Mais en fait, on utilise ce terme dans le jargon de manière plus spécifique pour faire ce que l'on pourrait appeler du SIG. Le SIG, c'est système d'information géographique en ligne. Les outils de cartographie en ligne, eh bien, vous les connaissez, ils se présentent tous de la même manière. Celui-ci, c'est celui de Bing, celui-ci, c'est celui de Yahoo. Donc le premier, c'était Microsoft, pardon, ensuite c'est Yahoo, ça c'est Google, Google Maps. OpenStreetMap, où là on est dans un schéma dans la communauté des logiciels, la communauté libre de l'information numérique. Et puis un autre géoportail national quand même que j'ai failli oublier et que j'ai rajouté par-dessus, alors, qui n'a pas tout à fait la même fonction, mais qui est un endroit important parce que si vous travaillez sur de l'information spatiale, donc le géoportail français est un outil de l'IGN. Donc l'IGN, c'est le producteur, c'est l'opérateur qui a produit toutes les cartes du territoire français que vous connaissez. Cette information est maintenant spatiale, numérisée. Elle est accessible via le géoportail et pour ce qui nous concerne dans nos domaines de recherche, elle est accessible par convention gratuitement avec l'ensemble des bases de données sur les terrains qui nous intéressent, ce que l'on va chercher évidemment quand on commence un programme de recherche. Alors, je vais faire une petite bascule avec ces outils-là pour vous les montrer directement. Donc, voilà, Bing, c'est un outil qui, comme d'autres, vous avez systématiquement une carte, vous pouvez zoomer dessus, la résolution va changer, vous allez avoir différents fonds cartographiques, mais qui sont toujours un fond de carte, et ici ça s'appelle vue aérienne, parfois ça s'appelle vue satellite, mais en tout cas une image, et là on est bien exactement dans les deux types d'informations que je vous ai décrites, entre le vectoriel et le matriciel, le raster. Si vous allez chez Yahoo, vous allez avoir exactement la même chose. Simplement, voilà, Bing, quand je l'ai chargé par défaut, il me présente ça. Yahoo, si je le charge par défaut, il me met ici. C'est-à-dire que lui, il utilise déjà, on parlait de géolocalisation, il sait déjà que je suis à Tours. Par l'adresse IP de la machine, je regarde Alain, mais techniquement, je pense que c'est ça qui est utilisé. Je ne vois pas d'autres possibilités. Je ne suis pas connecté à quoi que ce soit chez eux. Mais déjà, il sait que je suis à Tours. Google Maps, dans sa nouvelle version, alors ça se présente exactement de la même manière, lui aussi sait que je suis à Tours. Et ce sur quoi je voulais insister auprès de Google Maps, c'est justement sur ses nouveaux usages. Dans sa nouvelle version, il propose, une amélioration, ce qu'en fait fait Google avec l'ensemble de ses applications, c'est-à-dire qu'il propose de personnaliser votre cartographie. Ce qui veut dire que déjà, il sait où vous êtes, mais surtout, il va utiliser soit les cookies qu'il place sur votre machine quand vous faites des requêtes aussi bien sur la carte que sur l'ensemble des applications Google, pour créer une carte en fonction de vos requêtes antérieures. Si vous êtes en plus inscrit chez Google et que vous utilisez les applications de comment ça s'appelle Google Plus, voilà. Donc vous allez avoir de connecter sur Google Plus comme sur Facebook, des amis, etc. Donc vous allez créer du réseau de connexion entre ça. Si vous faites des recherches sur des aspects commerciaux d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que des recherches même qui vous concernent vous, mais qui sont pour faire de l'achat en ligne ou simplement pour vous renseigner sur tel ou tel type d'éléments, l'ensemble de ça va être utilisé pour créer une carte qui vous donnera ce type d'information à proximité de là où vous êtes. Alors évidemment, ça prend un peu de temps, c'est au fur et à mesure de l'utilisation, mais ça signifie que là, la géolocalisation prend un sens complètement nouveau. Elle est vraiment liée à ce qu'on a appelé ce qu'on appelle toujours le Web 2.0, et donc on est bien dans un positionnement et dans une sorte de... Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire interactivité, parce que Google est plus actif que vous dans ces cas-là. Mais dans une sorte d'utilisation de ce que l'utilisateur fait, le client fait sur Internet, pour renvoyer de l'information associée à ça. Alors évidemment, là encore, derrière, il y a un marché. Ça n'a rien de neuf par rapport à tout ce que fait Google ailleurs. Simplement, il le ramène à cette fonction de cartographie. Et ça, derrière, il y a des enjeux économiques qui vous permettent, vous savez bien qu'il cible la publicité qu'il vous envoie quand vous faites des requêtes. Ben là, de la même manière, il va cibler de la publicité locale ou des accroches locales en fonction de l'endroit où vous êtes et de vos propres centres d'intérêt par rapport à ce qu'il en sait, c'est-à-dire ce que vous renseignez vous-même quand vous faites des requêtes avec ses propres outils. Il est même, si vous utilisez un compte Gmail... il est même prévu qu'il aille chercher un certain nombre il va même aller chercher un certain nombre d'informations dans vos mails pour pouvoir vous ramener de l'information liée à ça. Alors, Je discute pas. On pourra en reparler après. Mais il faut savoir un peu comment ça fonctionne. Là où ça m'intéresse du point de vue, et ça a intéressé en particulier un collègue qui est un géographe de Saint-Étienne, qui s'appelle Thierry Joliveau, qui a fait un papier à ce sujet au moment où la nouvelle version de Google Maps est sortie. Et il pose la question, effectivement, de ce que ça signifie en termes de cartographie. Et c'est là où ça devient intéressant dans notre propos, puisque à ce moment-là, on parle toujours de géolocalisation et de cartographie, mais la cartographie n'est plus la carte de référence qui est la même pour tout le monde, mais une carte personnalisée où il n'y a plus deux personnes qui auront la même. Donc là, on ouvre un débat qui est beaucoup plus large et qui a des conséquences sur ce que l'on entend par cartographie et la manière dont on veut l'utiliser. Je referme la parenthèse sur Google Maps, mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'information numérique et de la manière dont on l'utilise. De la même manière, alors pardon, toujours dans ces outils de cartographie, donc le géoportail dont je vous ai parlé, le portail de l'IGN, où là on va aller chercher de l'information qui est vraiment l'information cartographique liée à la cartographie que l'on connaît de l'IGN et à une information qui peut être extrêmement précise quand on zoome dessus. Ce qui nous intéressera ici, c'est finalement, avec le géoportail, un usage qui est plus proche des habitudes anciennes que l'on a de la cartographie que tout ce que l'on peut trouver dans les autres, outils. Alors, je ne l'ai pas montré, mais évidemment, ces outils proposent, ça vous les connaissez certainement pour les avoir utilisés, des possibilités de passer d'un plan à une vision photographique des rues avec des outils comme Street View ou des choses comme ça, et également, dans certains cas de figure, à des modélisations 3D des villes. Alors, c'est le cas, donc là, je suis passé à un globe de représentation qui n'est plus une carte, mais un globe. Si on va chercher de l'information, je pense qu'il y en a par ici.
C'est pas sur New York.
Vous voyez que c'est assez facile d'utilisation, même Washington. Hein, mais si on va de manière très précise, plus on va s'approcher, plus on va zoomer, plus on va avoir une modélisation importante. Vous voyez qu'on arrive à voir les photos de manière très précise, mais on peut aller plus loin que cela et avoir en fait un modèle qui est un modèle 3D. Ouais, je suis un peu trop...
C'est le cas pour Google Maps aussi, hein, sur le site en ligne.
Alors, Google Maps, en fait, utilise la même base de données et il utilise la base de données qui est dans Google Earth, et il utilise même en fait une visualisation de Google Earth dans la cartographie, dans le site Maps. Voilà. Je vais revenir ensuite à mon diaporama. Voilà. Donc Google Earth, on en a parlé. Des outils plus collaboratifs. Alors, qu'est-ce que c'est que des outils plus collaboratifs? Ici, je vais pas, pour le coup, je vous ai mis deux, trois images simplement d'un outil qui s'appelle ArcGIS Online. Donc, ArcGIS, c'est un logiciel de système d'information géographique qui est d'ailleurs un logiciel que la MSH, c'est le moment de le dire, subventionne largement au sein du réseau national des MSH et donc permet à chacun des chercheurs de la MSH d'utiliser librement. Il est installé sur les postes et on peut l'installer à la demande. C'est des licences qui sont valables une année au renouvellement du contrat, jusqu'au renouvellement du contrat, et qui permet d'avoir un outil de système d'information géographique puissant, utilisable quand on est chercheur de la MSH. Ou d'une des MSH qui participent à cette mutualisation.
C'est c'est valable aussi pour l'université d'Orléans.
C'est valable pour Orléans comme pour Tours, bien sûr. C'est, oui, oui. Dans son développement récent, Argis est passé à quelque chose qui n'est plus simplement un outil de visualisation en ligne. Argis propose un viewer sous forme de globe, un peu comme Google Earth également, propose des choses comme ça. Mais il propose, à travers Argis Online, alors je vous en montre juste des copies d'écran, effectivement un portail où on peut aller choisir des fonds de cartes, mais que l'on peut personnaliser. Dominique vous en parlera tout à l'heure, donc je vais pas aller plus loin. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on change de perspective parce qu'on arrive sur un outil qui permet de travailler en ligne et de travailler donc à distance, sans avoir le logiciel installé sur sa machine. Donc on renvoie, en fait c'est la technologie du cloud appliquée au système d'information géographique. Mais c'est une première. Je vous montrerai tout à l'heure des sites dits de web mapping, donc de systèmes d'information géographique utilisés en ligne, qui sont toujours des outils de visualisation, même si on peut faire un certain nombre de choses avec. Mais on ne peut faire avec que ce qu'on y a développé. La différence avec ces nouvelles possibilités type ArcGIS Online, c'est qu'on va pouvoir utiliser la puissance de calcul de l'outil système d'information géographique à partir d'une connexion en ligne. Dans le même ordre d'idées un petit peu collaborative, j'ai parlé tout à l'heure rapidement, et puis je suis passé dessus, d'OpenStreetMap. Alors OpenStreetMap, c'est typiquement un outil collaboratif de la communauté des logiciels libres, enfin la communauté informatique du libre, qui se présente exactement comme les Google Maps, Yahoo Maps et autres, qui présentent à peu près les mêmes fonctionnalités et la même utilisation. En revanche, ce qui est particulier ici, c'est que toutes les données sont libres d'un bout à l'autre, libres d'accès et libres de droit, et la cartographie elle-même peut être créée, fabriquée de manière collaborative. C'est-à-dire que ce sont des utilisateurs qui vont aller, vous pouvez vous connecter sur Google Street View et dire « Ah ben dans mon quartier, à cet endroit-là, l'angle de la rue, il n'est pas bon, ou le nom de la rue, il n'est pas bon, ou l'information qui est pointée là, elle n'est pas bonne », et envoyer quelque chose. Ça fonctionne comme Wikipédia, mais autour de la cartographie. Ça pose d'autres types de problèmes, exactement comme Wikipédia, qui sont de la validité et de la validation, surtout, des données qui sont à l'intérieur quand on veut travailler avec ces fonds de données sur des sujets de recherche ou autres. Voilà. Alors, je reviens à ma présentation ici pour passer maintenant à quoi ça sert, tout ça. À quoi ça sert dans notre domaine qui est un domaine de recherche. Alors, peu importe, et recherche en sciences humaines. La première utilisation qu'on va en avoir, c'est toujours de faire de la cartographie dite d'inventaire. Alors, j'ai distingué inventaire et cartographie, mais pour avoir une progression. Mais ce que l'on fait quand on fait de la géolocalisation, c'est qu'on pointe des positions sur une carte. Peu importe le format de la carte, d'ailleurs, derrière. Ça, c'est bien un inventaire de données. Après, on va travailler avec des outils de cartographie qui vont permettre de mettre en valeur ces données et de produire quelque chose à partir de ces données. Et puis, on a des outils d'analyse spatiale qui, eux, vont permettre de travailler sur les propriétés spatiales des données et d'exploiter les propriétés spatiales des données pour réfléchir au sens de ces données dans l'espace. Et enfin, on va avoir, à partir de ces différentes analyses, des possibilités de modélisation, donc modélisation spatiale, voire de modélisation dynamique. Donc je vais essayer d'illustrer ça par un certain nombre de propos, et là, pour le coup, je vais revenir à l'archéologie, mais pas de manière très pointue, excusez-moi. pas de manière très pointue tout de même, mais je vais revenir quand même un peu à ce que je connais le mieux. Quand on parle d'inventaire, ben voilà, par exemple, à partir d'un inventaire de données à Tours, c'est... j'avais pas toutes les données, mais en y réfléchissant, j'aurais pu le faire pour Orléans. à partir de données à Tours, on va produire de la cartographie tout à fait classique qui permet de renseigner et de positionner des éléments dans l'espace. Donc ici, c'est un plan de la ville. On va évidemment positionner des éléments historiques pour ce qui nous intéresse, mais c'est finalement pas tellement l'objet de mon discours. À partir de différentes couches d'informations spatiales, on va pouvoir analyser, modéliser cette information, modéliser de manière conceptuelle cette information, et produire de l'information dite dérivée. C'est-à-dire qu'à partir de l'information brute, on va utiliser les propriétés spatiales de cette information pour calculer d'autres choses. Ici, en l'occurrence, on a un plan du 19e de la ville de Tours, et on a calculé les orientations des lignes parcellaires de ce plan. Je vous passe sur le détail des analyses des conclusions que l'on en tire, mais c'est pour vous montrer que sur une information qui est une information planimétrique, qui n'est pas du tout faite pour ça au départ, on va exploiter l'information spatiale pour la traduire sous une autre forme et créer une information dite dérivée. C'est la même chose à partir de sondages liés au sous-sol, où on va créer des modèles de surface qui correspondent à d'autres types d'informations, avec des algorithmes de calcul fondés sur, ici, de l'interpolation spatiale, mais il y a différents types d'analyses. Et puis on va créer des modèles qui peuvent être des modèles volumiques en trois dimensions, aussi bien pour ce qui nous intéresse en archéologie, au-dessus du sol qu'au-dessous du sol. C'est pour ça qu'on a ces versions un petit peu... avec des perspectives un peu particulières ici. Le principe du géoréférencement, j'y reviens toujours, hein, ça fait de la géolocalisation, c'est on se positionne dans l'espace. Quand on se positionne dans l'espace, eh bien, on peut changer le fond de carte qui est derrière, avec le même jeu de données. Et à partir de là, en fait, la puissance de ces outils et du fait d'être géoréférencé, pour le coup, localisé à la surface de la Terre, fait que l'on peut croiser toutes sortes d'informations qui sont géoréférencés dans le même système de référencement, ce qui permet de les combiner. Donc on va avoir sur un espace identique différents types d'informations qui peuvent concerner le sol, le sous-sol, la surface, calculer des informations dérivées à partir de cela, et surtout croiser l'ensemble d'informations. Et ce croisement de l'information, il est permis parce qu'on sait à quel endroit on est, et donc il est permis par le géoréférencement. Après, quand on passe à la cartographie, on va avoir, mais là je pense que Dominique en reparlera plus que moi, donc je vais passer très très vite, des exemples de cartographie qui représentent plusieurs types d'informations, et on va pouvoir, à partir de ce simple sommet de point initial, produire par la cartographie une information lisible différente. Parfois c'est peu lisible quand on a beaucoup d'informations. Eh bien, on a des outils, mais là aussi, je pense que Dominique en reparlera tout à l'heure, on va avoir des outils de transformation cartographique qui vont permettre de synthétiser cette information. Donc, ici, pour faire vite, on a un certain nombre de jarres qui ont trois positions différentes. On peut voir la part d'une de ces positions sur le total dans une maille régulière, ou bien simplement la position dominante dans ces mêmes mailles régulières, de manière à traduire l'information qui, au départ, il faut bien l'avouer, est à peu près illisible, même si elle est précise. De la même manière, quand on a ici à gauche une carte de représentation, on peut créer une information quantitative dessus en cartographie, et puis parfois, eh bien, en déformant cette information, la simplifiant dans sa géométrie, on peut la modéliser sous une forme graphique différente qui va permettre de la simplifier, et là encore d'avoir, c'est la vallée du Rhône que vous voyez là, d'avoir une information plus synthétique, mais à partir de laquelle on pourra plus discuter d'interprétation et plus facile à interpréter. Exactement. Ces outils de modélisation, ils vont plus loin. Quand on parle d'un sommet de point, ce sommet de point, on peut dire qu'il est, qu'il correspond à un espèce de, il va dessiner un espèce de nuage, c'est ce que vous voyez en blanc ici. Et à l'intérieur de ce nuage, on va avoir une quantité de points, comme je vous en ai montré tout à l'heure, dont on peut pas forcément dire grand chose. Eh bien, pour synthétiser cette information, on a des outils de calcul. En l'occurrence, ici, on calcule le barycentre de différents semis de peuplement, différents semis de peuplement, oui, à des dates différentes dans le même espace. Et puis, on va évaluer la mobilité de ces systèmes de peuplement au cours du temps en fonction du déplacement de ce barycentre qui permet de synthétiser l'information en la ramenant à un seul point pour chaque état de la carte. De la même manière, on va pouvoir, à partir de toujours d'un sommet de point initial, calculer une ellipse de déviation standard qui va donner une idée de la dispersion du sommet de point dans l'espace. Et puis de cette dispersion du sommet de point, on va pouvoir avoir une idée, ça va nous donner un indicateur, là encore un peu synthétique, de la déformation et dans le temps de l'expansion ou de la rétraction de ce système de peuplement dans le temps. des analyses. Je vous passe une série d'exemples pour vous donner des idées de jusqu'où on peut aller à partir de simplement au départ des semis de points qui sont de la localisation d'informations. Des calculs de densité où il y a à deux dates différentes, ce qui s'appelle chez les archéologues ici néo-moyen, néo-final, c'est vraiment du jargon d'archéologue, peu importe, c'est le néolithique moyen et le néolithique final. On a deux cartes différentes, deux cartes de densité de l'information, de densité de site différentes. Donc là, on pourrait dire qu'on doit être sur du mobilier, mais on pourrait dire qu'on est sur du peuplement, ça reviendrait au même. L'idée, à ce moment-là, est de transformer ces informations de densité plutôt que de constater le changement et de cartographier le changement lui-même et d'avoir des cartes qui vont permettre de montrer ce qui change de manière positive et ce qui change de manière négative. Toujours à partir d'un semis de points, comme vous voyez ici, on va pouvoir combiner cette information en fonction de sa localisation dans un relief spécifique. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est le voisinage de chacune de ces séries de points qui, là encore, pour des types de structures différents, permet de calculer en fonction du relief le voisinage par ce qu'on appelle un calcul de covisibilité, c'est-à-dire quels sont les voisins que je vois depuis le point où je suis et inversement pour l'ensemble de la cartographie. Ces modèles, ils peuvent aller jusqu'à des utilisations de modèles beaucoup plus complexes ou compliqués plutôt à mettre en œuvre et à calculer, comme le modèle gravitaire, qui est au départ pas du tout fait pour faire de la cartographie et encore moins des sciences sociales. Mais là, en l'occurrence, on va toujours sur un système de peuplement utiliser ce modèle gravitaire pour mettre en évidence des connexions entre des établissements et des lieux de peuplement, et mettre à partir de ces mises en relation et de ces connexions, de créer en fait à la fois un réseau et surtout des ensembles, des sous-réseaux, et de hiérarchiser l'ensemble du système de peuplement à chacune des dates qui nous intéressent. Donc l'idée, le fil conducteur de ce que je voulais vous montrer à travers ces quelques exemples, c'est qu'on va de la représentation au modèle dynamique, en passant par des outils de cartographie et d'analyse spatiale, sur lesquels Dominique va revenir, je pense, en détail. Et puis pour... je ne sais pas du tout quelle heure il est. Ça va? Ça va?
Ça va.
Donc pour terminer mon propos, je vais terminer avec trois exemples. Je vous les montre juste comme ça rapidement, qui sont des exemples sur des sites de web mapping. Donc ces sites de web mapping sont des outils de systèmes d'information géographique que l'on développe pour une application spécifique dans le cadre d'une recherche ou d'une présentation particulière. Le premier, c'est ici à Paris, sur la cartographie, je vais revenir après et vous expliquer de quoi il s'agit, la cartographie des enfants juifs de Paris déportés entre juillet 42 et août 44. Je vais revenir après dessus, vous allez voir ce que ça signifie. Le deuxième, c'est toujours à Paris. C'est un site qui, lui, est un programme de recherche en sciences historiques, histoire et archéologie, qui s'est appelé Alpage. Heureusement qu'il y a la carte à côté, parce que avec juste le nom, on ne penserait pas directement qu'on est à Paris. et qui met en œuvre différentes sources de données. Donc je vous montrerai comment ça fonctionne et ce que cela permet dans le cadre d'un programme de recherche. Alpage, c'est un programme financé par l'ANR, qui a été financé par l'ANR. Et puis le troisième, c'est un site développé à l'université de Stanford sur l'Empire romain et qui est un outil, qui est un modèle en fait, un outil de déplacement, de calcul d'itinéraire dans l'Empire romain. Pardon, il faut que je passe ici, si je ne me trompe pas. Voilà le premier. Alors, on va enlever ça pour y voir un peu plus clair. Comment se présente un outil de web mapping? Généralement, on a une fenêtre de carte, comme son nom l'indique, quelques outils de navigation simples, de zoom et de positionnement, qui vont nous permettre de naviguer dedans, et souvent des requêtes préétablies, ce qu'on appelle des géosignées, c'est-à-dire là on peut sélectionner directement un arrondissement pour aller pointer, zoomer sur l'arrondissement en question, plus précisément une rue. La cartographie générale ici et sur un fond de carte qui a été établi par Jean-Luc Pinol pour la période concernée, et les données qu'il y a derrière, donc il y a bien des données derrière cette information, sont les données de la base de données de Serge Klarsfeld, qui est évidemment celui qui a recensé l'ensemble des données des Juifs déportés pendant la Seconde Guerre. Il a en l'occurrence, donc pour la petite histoire que Jean-Luc Pinol m'a racontée, on est ici sur quelqu'un qui a un recensement, une base de données par fiche, de l'ensemble des enfants, c'est quasiment exhaustif je pense maintenant, l'ensemble des enfants juifs déportés sur cette période-là, avec leur adresse, enfin l'adresse de l'endroit où ils ont été arrêtés. Voilà, pardon, merci. Donc, à partir de là, c'est venu d'une discussion entre lui et Jean-Luc Pinol, qui lui a proposé de dire, mais cette information-là, c'est précisément une information spatiale. Et en fait, Serge Klarsfeld n'avait jamais raisonné de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il savait bien sûr que ces adresses étaient une information spatiale, mais il n'avait jamais tenté de les cartographier. Et donc, Jean-Luc Pinol a utilisé des fonctions de géocodage, comme je vous ai parlé au tout début, qui permettent de géoréférencer une information à l'adresse automatiquement. Et il a créé cette carte, alors avec quelques détails près, parce qu'évidemment, il y a des maisons qui ont disparu, des rues même parfois qui ont disparu, il y a quelques changements, donc ça s'ajuste toujours, il y a un peu de travail à faire derrière. Mais il a permis de référencer l'ensemble, à une dizaine près, donc c'est vraiment assez complet, l'ensemble de cette information sur une carte. Et la première chose qu'il produit, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la répartition que vous avez sous les yeux. Et ça, c'est une information qui, pour Serge Klarsfeld, qui avait une connaissance intime de sa base de données et de ce qu'il en avait fait, qu'il n'avait jamais vu sous cette forme-là. Et c'est ça qui me semble intéressant dans le géoréférencement, c'est que la première étape, c'est celle-ci. C'est que la simple visualisation de cet ensemble de données donne une nouvelle information sur la répartition spatiale dans l'espace parisien, qui, entre autres, contredit un certain nombre d'interprétations, alors là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui étaient des poncifs dits couramment, comme il y en a eu beaucoup, évidemment, à propos de cette question, mais sur le statut social des populations juives déportées à Paris. Or, ce que montre cette carte de manière flagrante ici, même quand on connaît mal Paris, c'est que le plus fort des déportations est à l'est, dans les quartiers pauvres de la ville, et pas du tout dans les quartiers riches, comme on l'a trop souvent dit. Quoi. Donc là-dessus, il y a vraiment des choses extrêmement parlantes, tout de suite mises en évidence par la cartographie elle-même. Après, bien évidemment, alors on va zoomer un petit peu, juste pour que ça soit plus simple, l'outil lui-même permet tout simplement d'interroger chacun de ces points, peut-être. C'est toujours comme ça, les démonstrations en direct. Oui, oui. Je ne suis pas sur le bon outil, c'est ça?
Ouais, c'est le point d'interrogation.
Avec un personnage.
Non, non, parce que là, on va rechercher directement. Non, non, non.
L'étiquette, peut-être.
Non, normalement, on survole simple. Évidemment, hier, ça marchait. Voilà. Quand on est sur un point un peu plus gros, c'est qu'on a plusieurs éléments, et on va directement avoir la liste, peut-être. Allez. Bon. Donc, croyez-moi sur parole. On va la voir ici, je pense. Voilà. Si on ne la voit pas comme... voilà. On va ici, sur chacun des points où on clique, avoir l'adresse, le nombre d'enfants, et leur nom et leur âge. Donc ça, c'est vraiment la base de données initiale de Klarsfeld. À partir de là, ils ne sont pas allés plus loin pour l'instant. Ça a déjà fait, puisqu'on est dans l'atelier numérique, cette carte, au moment où elle a été publiée en ligne, ça a fait le buzz. Il y a eu un article dans Libé, c'est parti partout, ça a été vu par toute la communauté internationale très très vite. Il y a eu un pic de fréquentation énorme et ça a été voilà, juste avec cette information. Maintenant, à partir de là, je ne sais pas du tout où ils en sont, j'en ai pas reparlé avec eux avec Jean-Luc Pinol depuis longtemps, mais à partir de là, on imagine tous les outils d'analyse spatiale que l'on pourrait mettre en œuvre et toutes les questions qu'on peut poser à partir de cette base-là. Donc, là, on est typiquement dans la version 1 de la géolocalisation, qui dit déjà énormément de choses, qui met à disposition une information sous une forme visuelle, graphique et spatiale, ce qui n'était pas possible avant, avec des outils relativement simples pour le coup, et qui ouvre un champ de recherche, enfin, pas un nouveau champ de recherche, mais en tout cas ouvre des possibilités dans, le champ de recherche en question de traitement et d'analyse. Le deuxième outil de web mapping que je voulais vous montrer, c'est celui d'Alpage, dans lequel eh bien, on est à nouveau à Paris, où là aussi on va retrouver à peu près le même type d'outils de navigation. Ça se présente toujours un petit peu de la même manière. Une vision globale ici qui permet de se repérer lorsque l'on zoome et de savoir où on est, mais je vais la fermer pour avoir un petit peu plus d'espace à l'écran. Le fond de plan qui est ici, c'est un fond de plan en couleur, vous le voyez, donc c'est une image qui, dans le cadre du programme, a été géoréférencée. C'est ce qu'on appelle à Paris le cadastre Vassereau, qui est le cadastre, l'équivalent de ce qu'on aurait dans nos communes du cadastre dit napoléonien, c'est-à-dire c'est le cadastre du 19e qui couvre l'ensemble de la ville de Paris intramuros et qui est le plan, on va dire le plan le plus ancien géoréférençable, c'est-à-dire géométriquement projetable dans l'espace avec des référentiels actuels. À partir de là, donc ce travail qui a déjà été en soi un travail énorme, le site Alpage offre à la communauté des historiens, de l'ensemble des historiens qui veulent travailler sur Paris, une base de données complètement nouvelle et inédite sous cette forme-là, puisqu'elle met à disposition de cette communauté d'abord un référentiel cartographique à partir de plans anciens qui n'étaient pas visibles avant. Chacun avait bricolé plus ou moins dans son coin quelque chose, mais on n'avait rien d'homogène. Ensuite, des informations, donc vous voyez qu'on a des séries de couches sur, là on peut prendre ils ont travaillé sur les bords de la Seine, sur des données archéologiques, mais on va avoir, je ne vais pas tout afficher en même temps, hein, parce que sinon on n'y arrivera pas, on va avoir quelque chose sur la voirie, alors attendez, on va passer à des choses plus parlantes peut-être en dessous, pour ce qui sont des vestiges archéologiques. Sur le tissu urbain ancien, eh bien, des plans d'îlots qui ont été vectorisés en 1380, en 1300, donc à des dates précises. C'est-à-dire qu'il y a des ensembles, à partir du fond de plan commun, donc d'un géoréférencement initial, il y a des groupes de chercheurs, qui peuvent être soit des médiévistes, soit des modernistes, soit des antiquisants, qui vont travailler eux-mêmes sur des données qui les concernent et qui vont alimenter cette base et mettre à disposition ces ensembles-là, soit sous forme de plans à des dates précises, comme ici. Alors on va enlever ça, voilà, avec des plans d'îlots et des plans de voirie. Alors, par exemple, avec les tracés d'enceinte, ou encore, où on les a ici, les églises. Sachant que chacun de ces objets sur la carte, exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est renseigné par... Alors là, j'ai cliqué un peu au hasard. Si on prend un tracé d'enceinte, voilà, on sait lequel c'est, et on a une fiche d'information qui donne des informations, enfin qui rapporte à l'écran les informations qui sont contenues dans la base de données associées à ces objets. Ça, c'est la notion de base de lien entre l'information et la carte. Mais donc, l'ensemble est accessible, c'est quelque chose qui n'existait pas pour Paris et qui change complètement la manière de pouvoir rentrer dans les données. Donc c'est vraiment un travail d'abord assez énorme, et puis donc il y a des choses sur les circonscriptions historiques, hein, avec des limites à différentes dates, sur... des données environnementales à partir de données de crues ou de choses comme ça quand elles ont pu être renseignées par exemple, et puis les données évidemment de référence, donc sur le plan Vassereau, la pure, c'est les données actuelles de Paris, c'est l'agence d'urbanisme en fait de Paris, des cartes anciennes. Alors là on va avoir, je pense que si on fait ça fonctionne, voilà, la représentation le référencement de plans anciens, je vais enlever ça pour qu'on y voit un peu plus clair, qui évidemment n'ont pas la précision du cadastre, mais qui permettent quand même de croiser de l'information d'attaquer des recherches dans des conditions bien meilleures. Cet ensemble-là, c'est vraiment une base de données géographique qui ouvre des possibilités, avec la possibilité de créer ses propres couches, de jongler, de les superposer et donc de manipuler cette information pour entamer un travail, une recherche, et ensuite d'alimenter à nouveau la base par de nouvelles couches. Il propose quelques outils d'analyse, mais pour l'instant, il y en a très très peu. Et ça, c'est la difficulté de ces sites de web mapping, c'est qu'en fait, toutes les questions d'analyse ou de cartographie, même relativement simples, que l'on va pouvoir proposer, sont nécessairement préformatées. C'est-à-dire qu'elles sont les questions d'analyse ne sont pas complètement ouvertes. On n'est pas dans un outil comme on l'est avec ArcGIS Online, où chacun manipule son outil et fait ce qu'il veut. Enfin, le dernier exemple, pour terminer, on va passer au monde romain, à l'Empire romain, avec Orbis. Donc Orbis est une modélisation de l'Empire romain qui est fondée sur plusieurs séries de données. La grande qualité de ce site, c'est-à-dire que le modèle, comme tout modèle, est nécessairement critiquable. Si on regarde ici... la Gaule, on va dire, ah mais oui, mais il manque beaucoup de nœuds au réseau routier, parce que même dans la table de Peutinger, on connaît beaucoup plus d'informations que ça. Le chercheur Walter Scheidel, qui a créé ce modèle, s'en explique de manière extrêmement claire sur les choix qu'il a fait dans l'ensemble des onglets qu'il y a derrière. C'est-à-dire que la grande qualité de ce modèle, c'est que tous les choix qu'il a fait sont absolument transparents. Il ne se justifie pas, mais il expose les choix qu'il a fait pour mettre au point ce modèle, ce qui fait qu'on sait exactement ce que l'on peut demander et pas demander. La partie ludique du modèle en question, dans cette version-là, qui est la version en ligne actuellement, la version 1, c'est que c'est en fait un réseau, et qu'à partir d'un réseau, ben, on va faire du calcul d'itinéraire. Donc on va dire... qu'on est non pas à Rome mais à Tours. Je vais y arriver. Tu le vois? Non, c'est en dessous encore.
Ouais, là,
voilà. Donc Tours, dans l'Empire romain, c'est Caesarodunum. Et puis, par exemple, qu'on veut aller à Rome, puisque c'est quand même à Rome. Celle-là. Que tout se passe. J'aurais dû le taper, j'aurais gagné du temps. Voilà. Ce que propose l'outil, bah, c'est comme quand vous faites un calcul d'itinéraire dans Google Maps, qu'on a vu tout à l'heure, ou dans, j'ai pas parlé des MAPI et autres outils de via Michelin et autres de calcul d'itinéraire en voiture, où vous pouvez choisir si vous voulez aller avec un maximum d'autoroutes, le plus rapidement possible, le moins cher, etc. Ben là, on a la même chose. On va pouvoir choisir l'itinéraire le plus court, le moins cher ou le plus rapide. Parce que derrière, dans la construction du modèle, c'est ça là-dessus que je passe nécessairement très rapidement, il a entré des données économiques. Il a entré des données économiques, il a entré des données de temps de parcours, mais il permet de choisir la manière dont on veut naviguer. Alors, dont on veut voyager, pardon.
Naviguer aussi.
Naviguer aussi, c'est parce que je voyais naviguer avec les options. Ouais, évidemment, à un moment ou à un autre, on peut passer en mer, puisque au centre de l'Empire romain, enfin l'Empire romain est autour de la Méditerranée. Donc il y a un modèle de calcul des trajets maritimes. On pourrait rentrer dans le détail, on l'a discuté avec lui sur la manière dont sont calculés ces modèles. Le modèle maritime est beaucoup plus fin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que le modèle terrestre. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, je veux juste vous montrer l'application, après on pourrait discuter. On peut choisir... Si on y va en marche forcée militaire ou si on y va comme un, un, Enfin, à pied, normalement, comme la plupart des gens devaient le faire, ou alors avec des à cheval et avec des relais répartis. Donc, on choisit ces options. On choisit également... alors, il y a des options économiques que l'on peut choisir en dessous, qui dépendent de la... Non, ben, pas ici, puisque j'ai fait un autre choix, mais qui dépendent du modèle lui-même. Et on choisit aussi le mois où l'on va voyager, puisque évidemment, selon la saison, les temps de parcours ne vont pas être les mêmes, aussi bien sur terre qu'en mer, etc. Alors, un des reproches qu'on pourrait lui faire, qu'on a discuté, c'est qu'il ne tient pas compte du relief, il ne tient pas compte d'un certain nombre de choses. Enfin, voilà. Mais malgré tout, il a un modèle qui est, je vous le dis, j'insiste là-dessus, hein, mais qui est très bien fait. Voilà. On va garder le mois de janvier, puisqu'on est en janvier, et donc on va calculer la route. Voilà, j'ai eu peur que ça ne marche pas. et donc, il nous donne évidemment une vision graphique de ce calcul qui permet de voir le trajet en question selon les choix qui ont été faits. Là, on a demandé à cheval. Donc, évidemment, il n'est pas passé en mer. Hein, il longe la côte. Il envoie les informations ici avec le nombre de jours, le nombre de kilomètres. Et puis selon les pondérations demandées, les coûts pour les passagers, pour les marchandises, etc. Donc ça c'est un premier modèle qui donne un certain nombre de choses. C'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, dans l'Antiquité, ce que l'on sait des modes de transport, c'est que ce qui compte c'est bien l'itinéraire et c'est pas la représentation cartographique qui est, si je reviens ici à une vision complète, qui, pour ce que l'on en sait dans l'Antiquité, n'est pas celle-ci. C'est-à-dire que ça, c'est notre représentation cartographique du monde, qu'on peut estimer connaître un peu mieux que ne la connaissaient les Romains, mais qui n'est pas en tout cas la représentation graphique qu'ils auraient fait s'ils avaient dû dessiner la carte du monde. Et pour le coup, l'information que l'on obtient est bien sur l'itinéraire lui-même. Alors, ils sont en train de développer une version bêta, une version 2 d'Orbis, qui présente, on va essayer de faire un peu de place, c'est pas très facile là, pourquoi je peux pas aller gauche là, qui présente une amélioration des outils d'une manière générale. Alors tout n'est pas encore opérationnel en plus, peut-être essayer ça, ouais, non. Non, ce que je cherche, c'est à me déplacer.
Oui, il n'y a pas les outils de navigation.
Voilà. Ouais. Tout simplement. Donc voilà, on a le réseau qui est le même. Hein, il a peut-être été amélioré en partie, mais on a le réseau. Il a amélioré, entre autres, parce qu'il a créé, il a ajouté, en plus du modèle de navigation pour les routes maritimes, il a ajouté les connexions connues et les itinéraires connus de port à port. Mais là, on est dans du détail. Quelque chose qui n'est pas un détail, c'est qu'il a ajouté aussi quelque chose qu'on lui, un des reproches qui lui a été fait, évidemment, c'est ici la possibilité de mettre en jour un temps de rupture de charge quand on change de mode de transport, etc. Ce qui est quelque chose d'essentiel dans la circulation. Hein. Là, on trouve les mêmes possibilités, donc on va le recaler sur janvier, on va le laisser faire comme il veut de ce côté-là, et puis là, pour le coup, on est à pied avec une marche à 30 km par jour, et là encore, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. À partir de là, donc on peut évidemment lui faire calculer la route, mais on peut surtout, sur ces paramètres-là, faire quelque chose qui est intéressant dans ce modèle, c'est que la représentation qu'on a là, et là on va être dans un modèle dynamique, ce que je vous disais tout à l'heure, on va essayer de choisir ici Kaiser Autonom, donc Tours, de lui faire calculer ce qu'on appelle un cartogramme, c'est-à-dire de déformer ce réseau en fonction des paramètres que l'on a passés, et donc du temps de transport. Et donc si je lui demande de faire ça, voilà. Il transforme, alors évidemment pas le fond de carte derrière, mais je dirais qu'en l'occurrence, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon, c'est un repère pour nous, ça, mais uniquement un repère pour nous. Il transforme ce graphe, donc cette représentation des itinéraires, à partir du point central que j'ai sélectionné ici, qui est Tours, avec des cercles concentriques qui représentent le temps de transport. Alors, je ne sais pas où est la légende n'est pas apparue, il le fera, c'est des choses qui viendront après, mais qui vont donner une idée du temps de transport. Ça, c'est une chose qui permet de donner une idée, de visualiser le temps de transport à partir d'un point dans l'ensemble de l'Empire romain. Maintenant, si je change et que je passe de janvier à juillet, et que je reprends... Oui, pardon, c'est celui-ci. Caesar Odenum, et que je refais le cartogramme, eh bien, le temps de transport change, puisque la saison a changé. Donc, vous voyez que là, on est vraiment dans un modèle complètement dynamique qui nous donne une information à des temps différents et qui permet d'interagir avec le modèle. Ce qui me semble intéressant là-dedans, ce n'est pas le résultat en soi de la cartographie. On ne va évidemment pas aller prendre des mesures là-dessus, même si on va avoir le même type d'informations de temps de transport, de coûts, etc., qui sont des choses, des résultats comparables. Ce n'est pas la représentation spatiale en soi de ce que donne l'Empire, la déformation du graphe, mais c'est le fait que ici j'ai fait ça à partir de Tours, et que si maintenant je me dis, je suis, alors là je vais cliquer un peu au hasard, à Rome ou à côté, ah non j'ai eu de la chance, et que je regarde dans les mêmes conditions, à la même période, l'Empire depuis Rome, je ne vois pas la même chose. Et ça, puisque dans l'Empire romain, ce qui nous intéresse, enfin ce que l'on sait du mode de transport et des modes d'échange, c'est les itinéraires et pas, donc forcément fondés sur le temps de calcul, et pas la représentation spatiale en soi, je trouve que c'est un outil heuristique particulièrement pertinent puisqu'il offre de nouvelles possibilités. Et donc, je conclurai là-dessus, à partir de géolocalisation qui sont juste un positionnement de points dans l'espace, on peut arriver à des outils qui demandent un peu de travail, mais à des outils qui ont une vraie valeur heuristique dans nos travaux de recherche ici, qui vont un peu au-delà de l'étiquette Google qu'on pourrait avoir pointée dans le dos que je vous ai montré au départ. Merci. Ah, tu vas avoir besoin de ça.
Oui.
Ah bah comme vous voulez.
Oui. Ça me laissera un peu de temps. Tiens, tu peux me passer la connexion, s'il te plaît. On vous a assommé.
Surtout moi. T'es gentil de dire.
Oh mais qui est collectif. Hein. C'est la journée. Sur les
alors Léon peut-être alors.
Ah oui, pour pas avoir de retour.
Oui, j'avais une question, c'est que vous nous avez montré les différents outils de cartographie que vous utilisez, mais quand on les lit à des bases de données qui sont assez importantes, type par exemple les bases de données de la cartographie des enfants juifs déportés à Paris, comment est-ce que vous faites pour passer de l'un à l'autre en fait? Alors, ou pour informer l'une avec l'autre, hein. Ça dépend du type de base de données. Est-ce qu'il y a des formats qui sont interdits, enfin,
là, on pourrait faire une semaine de formation complète là-dessus. Oui. D'ailleurs, j'en fais bientôt une, d'ailleurs, en février. Mais là, on est vraiment, je dirais, dans la cuisine, dans le moteur de tout ça, dans la mécanique de tout ça. Et là. Les deux questions de base, c'est effectivement le géoréférencement, la position des points dans l'espace, et la deuxième, c'est la connexion avec une base de données structurée qui va informer ces objets. Donc, le point de départ quand on commence, c'est effectivement un inventaire de données. On peut le géolocaliser, on peut le spatialiser, mais la question préliminaire, c'est quelle est l'information que l'on va spatialiser de manière à pouvoir y attacher l'information que l'on a dans nos bases de données. Et à partir de là, on crée des modèles qui sont dits des modèles comme quand on construit une base de données, des modèles d'ordre conceptuel qui vont nous servir à construire et à implémenter en informatique la structure du système que l'on va utiliser. Mais pour faire très simple, n'importe quel semi de point sur une carte, si on attache une information, c'est-à-dire une ligne dans un tableau tout simplement, avec de l'information dans des colonnes à chacun de ces points, la connexion, elle se fait très facilement. Et pour une carte type celle des enfants juifs, puisqu'on avait les adresses, des bases de données d'adresses, il en existe beaucoup, et il suffit de matcher les deux, pour, c'est ce qu'on appelle le géocodage, pour arriver à la cartographie très directe de, et très rapide de ça.
Oui. Moi j'avais une question par rapport à ArcGIS Online, par rapport au, enfin, je suppose qu'on peut faire des calculs comme sur le logiciel de base.
Toutes les fonctionnalités ne se retrouvent pas dans ArcGIS Online.
Oui. D'accord. Pas encore.
Non. Il y en a un certain nombre qui sont intéressantes et qui vont bien plus loin que la simple visualisation, que la simple cartographie et le paramétrage de vos de la sémiologie graphique hein, par derrière, des traitements, des cercles proportionnels, des discrétisations, etc. Il y a un certain nombre, mais tout n'y est pas.
Il n'y a pas toutes les fonctions. Non. Et bon, alors, pour les fonctions qui sont présentes, est-ce que les temps, enfin, des fois les calculs peuvent durer un peu de temps, est-ce que sur online, il y a une différence par rapport au logiciel
alors, ça, je... alors. Il y a une chose auquel il faut veiller sur ArcGIS Online, c'est pas gratuit. Il y a un système de points, de crédits, de 1500 crédits quand on ouvre un compte. Et en fonction des traitements que vous faites dessus, ça sort le tiroir caisse. Voilà.
Donc, on a la chance à l'AMSH d'avoir le logiciel direct. Utilisez-le.
Oui, non, mais,
ça coûte qu'à la MSH.
Par exemple,
mais voilà.
Ah
oui, oui, oui.
Alors, on ne va pas rentrer dans des détails techniques qu'on pourra régler en dehors, mais vous êtes
étudiante ici,
doctorante dans un labo de la MSH. Ouais. Donc, à ce titre-là, vous pouvez avoir une licence qui est valable un an sur votre machine pour travailler. Enfin, c'est ce qu'on fait sur les portables pour l'ensemble des doctorants. C'est à ça que sert l'investissement que fait la MSH dans ces licences. Donc, autant
les utiliser.
Oui, oui,
sur
oui,
les
sans
portables
problème.
Valables aussi.
Et ArcGIS ne prend aucun risque. Hein. Au bout d'un an, ça ne marche plus. Donc, on les renouvelle, je ne dis pas de bêtises, hein. C'est Alain qui s'en occupe surtout.
31 mars.
À force de faire de la publicité, c'est à toi que ça va donner du travail. Mais le principe, c'est que tant que vous avez une carte d'étudiant, une carte de doctorant ou un statut qui fait que vous êtes chercheur dans la MSH, il n'y a pas de problème. Quoi. C'est fait pour ça.
Donc, ouais, parce que c'était aussi une question de puissance de l'ordinateur, tout ça.
Ça dépend pas de la puissance, ça dépend du nombre de crédits.
Ouais, voilà, exactement. C'est chez eux que ça calcule, bien sûr.
Il est installé
sur tous les postes. Hein.
On en profite pour rappeler que la salle est ouverte à tous les doctorants de tous les laboratoires de la MSH, des ordinateurs tout neufs, avec des versions à jour des logiciels, donc il faut s'en servir.
Alors, s'il y a d'autres questions, je peux prendre le relais, non ? Je peux vous...